Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jean le Baptiste entendit parler dans sa prison des œuvres réalisées par le Christ. Il lui envoya ses disciples et, par eux, lui demanda « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus leur répondit « Allez annoncer à Jean ce que vous entendez et voyez. Les aveugles retrouvent la vue et les boiteux marchent. Les lépreux sont purifiés et les sourds entendent. Les morts ressuscitent et les pauvres reçoivent la bonne nouvelle. Heureux celui pour qui je ne suis pas une occasion de chute. » Tandis que les envoyés de Jean s'en allaient, Jésus se mit à dire aux foules à propos de Jean : « Qu'êtes-vous allé regarder au désert ? Un roseau agité par le vent ? Alors qu'êtes-vous donc allé voir ? Un homme habillé de façon raffinée ? Mais ceux qui portent de tels vêtements vivent dans les palais des rois. Alors, qu'êtes-vous allé voir ? Un prophète ? Oui, je vous le dis, et bien plus qu'un prophète. C'est de lui qu'il est écrit « Voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour préparer le chemin devant toi. » Amen, je vous le dis, parmi ceux qui sont nés d'une femme, personne ne s'est levé de plus grand que Jean le Baptiste. Et cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Acclamons la parole de Dieu.
M'appeler à une conversion radicale. Le démon a falsifié l'image que nous avons de Dieu. Et nous imaginons un Dieu qui est à notre manière, qui est puissant selon notre puissance à nous, selon notre forme de puissance. Nous imaginons un Dieu haut, grand, fort, beau, on lui prête toutes les qualités. Dieu est un Dieu d'amour. Sa puissance est une puissance d'amour. C'est radicalement l'inverse de ce que nous pensons d'habitude, de ce que nous pensons naturellement. Il faut passer de l'idée que nous avons de Dieu à la réalité de ce qu'il est, lui. Et même Jean le Baptiste doit faire cette conversion. Même Jean le Baptiste est soumis à cette épreuve pour la foi. Jean avait prêché le Messie qui venait derrière lui. « Je ne suis pas digne de le délier, la courroie de sa sandale. » Il y avait les joies profondes, les commencements. Il avait été saisi d'étonnement, mais même d'effroi, au moment où Jésus avait demandé le baptême. Et Jean s'était écrié, « Mais non, ce n'est pas à moi de te baptiser, c'est plutôt le contraire. » Jésus lui avait dit, « Fais ce que tu dois faire, tu comprendras plus tard. » Jean l'avait fait, et il avait vu, comme ça avait été annoncé, la colombe qui descendait sur lui, sur Jésus, qui désignait le Messie. Parce que l'Esprit Saint lui avait dit, « Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre, c'est lui. » Et puis Jean avait été arrêté par Hérode, parce qu'il prêchait la vérité de Dieu. Et dans sa prison, il est pris de doute. Il est pris de questions douloureuses parce qu'il entend parler de Jésus et il se disait que Jésus allait déployer sa puissance progressivement qu'il allait manifester sa puissance en posant son autorité. Puis en réalité, il entend que Jésus mange avec les pécheurs, qu'il fréquente les pauvres et les petits, et que finalement, il se conduit comme tout le monde. Il n'est pas l'homme qu'on attendait. Il n'est pas le Messie qu'on attendait. Alors Jean envoie ses disciples voir Jésus. « Es-tu celui qu'on attend ? Es-tu celui que je dois attendre ? Ou est-ce qu'on doit en attendre un autre ? Est-ce que je me suis trompé ? Est-ce que j'ai prêché un mauvais Messie ?» Déjà, dans l'Ancien Testament, on attendait un Dieu puissant. Écoutez, relisons le livre d'Isaïe, le petit passage que nous avons lu, que nous avons entendu. On verra la gloire du Seigneur, la splendeur de notre Dieu. Fortifiez les mains défaillantes, soyez forts, ne craignez pas. Voici votre Dieu, c'est la vengeance qui vient. C'est la revanche de Dieu. Il vient lui-même et va vous sauver. On entend un Messie qui vient, au nom du Seigneur, annoncer la vengeance, la revanche de Dieu. Même Isaïe, en écrivant ce qu'il écrit, ne se doutait pas de ce que Jésus serait réellement. Vous ne pouvez pas imaginer. Quand on relit Isaïe à la lumière de ce que nous savons, nous, à la lumière de Jésus, de la vie de Jésus, de sa mort et de sa résurrection, on comprend qu'en réalité tout cela a été annoncé. On comprend qu'Isaïe parlait d'un serviteur pauvre, d'un serviteur souffrant. Mais au temps où ça a été écrit, on ne pouvait absolument pas imaginer, on ne peut pas comprendre. Comment imaginer que la vengeance de Dieu, c'est la miséricorde de Dieu ? Comment imaginer que sa revanche, c'est une revanche sur le mal et non pas sur les pécheurs ? La vengeance de Dieu, c'est sa miséricorde. Tout est renversé dans notre pensée. Tout est renversé dans notre idée de la justice. Qu'êtes-vous allé voir au désert ? Vous êtes allé voir un roseau agité par le vent ? Qu'est-ce que vous êtes allé voir à la messe ? Qu'est-ce que vous allez voir au catéchisme ? Qu'est-ce que vous allez voir dans la foi ? Qu'est-ce que vous allez voir quand l'Église enseigne ? Un homme habillé de façon raffinée, mais non, c'est dans les hôtels de luxe que sont ces personnes-là. Moi, je vous dis, vous êtes allé voir un prophète, c'est-à-dire quelqu'un qui annonce, et bien plus qu'un prophète. Vous êtes allé voir celui qui annonce, le vrai Messie, alors que même lui ne le connaissait pas, même lui ne le savait pas. Est-ce que vous êtes allé voir des miracles extraordinaires ? Est-ce que vous attendez des choses magnifiques ? Vous verrez une église pauvre, une église fragile, une église même scandaleuse. Vous verrez quelque chose d'impossible à comprendre. Pourquoi Dieu agit-il ainsi ? Pourquoi Dieu tarde-t-il ? Pourquoi Dieu se cache-t-il ? Combien de fois nous posons cette question ? En voyant dans le monde la progression du mal, la progression des drames, les guerres, les souffrances, les maladies. Mais que fait Dieu ? Pourquoi Dieu n'a-t-il pas empêché cela ? Pourquoi Dieu n'a-t-il pas agi quand il était temps d'agir ? Est-ce que tu es vraiment celui qui est le Messie ? Ou est-ce qu'on s'est trompé ? Est-ce que l'Église a raison de continuer d'annoncer ce Jésus ? Est-ce qu'il est vraiment le Sauveur ? Est-ce qu'il nous sauve réellement ? Objectivement, quand on regarde la vie de l'extérieur, avec un regard extérieur, on voit qu'il y a un échec monumental. L'Église est en échec constant. On vient à la messe, on communie, et même dans notre vie, il y a un échec constant. Je suis toujours pécheur. Je peux me confesser toutes les semaines, tous les 15 jours. Je reste pécheur et je refais les mêmes péchés. Est-ce que Jésus m'a vraiment sauvé ? Cette question, elle est douloureuse et nous passons tous par cette épreuve de foi. Jésus ne répond pas par oui ou par non. Jésus ne répond pas d'une façon péremptoire, parce que ce serait encore une connaissance extérieure. Il faut que nous passions à la foi intérieure, à la rencontre intérieure, à la découverte intérieure de qui est le Messie. Jésus nous fait réfléchir. Allez dire à Jean, les aveugles voient, les sourds entendent, les boiteux marchent. Est-ce que ça n'est pas ça qui était annoncé? Est-ce que ça n'est pas ça la véritable délivrance? Dieu n'agit pas de façon extraordinaire. Et Dieu n'est pas venu supprimer nos problèmes. Dieu n'est pas venu écarter nos difficultés. Il est venu nous donner la clé pour entrer dans les difficultés par amour, pour les porter par amour, pour les traverser par l'amour. Et c'est vrai, si nous regardons avec un regard intérieur, nous le savons bien, là où est l'Église, c'est-à-dire là où sont les saints, les aveugles voient. Pas forcément d'une façon extérieure, mais on découvre la vérité. Les sourds, ceux qui étaient bouchés, entendent les paroles d'amour, de pardon. Tous ceux qui étaient boiteux commencent à marcher droit. Oui, il y a des miracles physiques, mais ce n'est pas ça qui est important. Les miracles physiques ne sont que signes des miracles intérieurs, des choses qui ne sont pas visibles au regard extérieur, qui ne sont visibles que quand on va par le dedans. Alors vraiment, le désert et la terre de la soif, qu'ils se réjouissent, parce que la voilà la vraie libération de l'amour. Le pays aride, qu'il exulte et fleurisse, qu'il exulte et crie de joie, parce qu'il vient, c'est la bonne nouvelle de Dieu qui sauve, la bonne nouvelle de Dieu qui prend soin des pauvres, qui prend soin des petits. Les pauvres, les petits, ce sont les pécheurs. Les pauvres, les petits, c'est moi qui suis pécheur. Si je me prends pour ce que je ne suis pas, alors Dieu n'est pas venu pour moi. Si j'accepte de reconnaître mon péché, si j'accepte de reconnaître ma pauvreté, alors Dieu est vraiment venu pour moi. Et il fait pour moi la vengeance, la revanche sur le mal. C'est sa miséricorde. Du plus petit, il tire le plus fort. Jean-Baptiste, c'est Jésus qui l'annonce. Jean-Baptiste est le plus grand de tous dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament. Mais le plus petit dans le royaume, c'est-à-dire le plus petit des chrétiens, le plus petit de celui qui découvre le vrai mystère du Christ, est plus grand que le plus grand des prophètes de l'Ancien Testament. Jean le Baptiste est très grand, non pas parce qu'il est le plus grand prophète, mais parce qu'il va découvrir le véritable Jésus. Il va découvrir le véritable Messie. Et on a le droit d'imaginer Jean, au fond de sa prison, qui exulte, parce qu'il découvre, dans l'acte de foi, celui qui est vraiment Dieu. Il peut mourir en paix, d'une façon épouvantable, d'une façon lamentable, d'une façon scandaleuse aux yeux des hommes. Il mourra pour les beaux yeux d'une fille qui danse à moitié nue devant un père qui a trop bu. Il mourra d'une façon lamentable, comme Jésus meurt d'une façon lamentable sur la croix. Aux yeux extérieurs, c'est un scandale, c'est incompréhensible. Le monde rigole. Mais aux yeux intérieurs de la foi, Dieu est victorieux. Il a vaincu la mort. La mort est vaincue définitivement. Patience, dit Saint Jacques. Patience, regardez le cultivateur qui attend la récolte. Patience, persévérance, confiance, c'est le grand message de l'Avent. Il faut du temps pour que tout ça pénètre dans le monde, que tout ça pénètre dans nos cœurs, que tout ça pénètre dans notre vie. Saint Paul le disait d'une façon admirable, l'amour prend patience, l'amour endure tout, l'amour supporte tout, l'amour croit tout. Marie est la grande figure de l'Avent. Nous la retrouverons dimanche prochain, à côté de Joseph qui souffre. Marie est la grande figure de l'Avent. Elle aussi doit faire ce retournement intérieur. Elle aussi doit faire cette conversion intérieure. Elle n'a pas péché, mais elle ne sait pas encore qui est le Messie. Elle croit que c'est Jésus, mais elle ne comprend pas sa manière d'agir. Quand elle verra Jésus, 3 jours absent pendant qu'il a 12 ans au temple à Jérusalem, elle ne comprend pas la réponse de Jésus. Elle ne comprend pas son attitude. Elle garde tout cela dans son cœur pour le méditer. Elle ne comprendra qu'à la croix. Elle ne comprendra qu'en voyant mourir son Fils. Elle ne comprendra qu'au moment de la résurrection, tout s'éclaire. Elle avait raison de croire. La différence entre Marie et nous, c'est que Marie accepte tout. Marie endure tout. Marie, humble servante, consent à la volonté de Dieu. Elle accepte de ne pas comprendre. Elle accepte de ne pas dominer. Elle se laisse conduire. Elle est disciple du Seigneur. Elle se met à son école. Et c'est la raison pour laquelle l'Église, dans quelques jours, nous conduira à la crèche, le mystère de la petitesse de Dieu, le mystère de sa puissance révélée dans la pauvreté, dans l'humilité de la crèche. Seuls les esprits simples peuvent le découvrir. Ce seront les bergers ou les mages très intelligents, mais humbles dans leur intelligence. Demandons à la Vierge Marie de nous apprendre à attendre, de nous apprendre à patienter. Elle brûle de désir, mais c'est un désir patient. Elle sait que tout viendra à son heure. Amen.